Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places. Vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable. Ça me rappelle la jeunesse.
Ça commence bien.
Le spectacle continue.
Bonjour, au sommaire de cette émission, deux artistes inclassables que j'affectionne particulièrement. Ils jouaient sur les mêmes scènes à leur début. Aujourd'hui, deux trajectoires, deux parcours artistiques. Fantasio, que j'ai rencontré à l'occasion du festival Banlieue Bleue, c'était en avril 2024 à Pantin. Et Neusfell, qui faisait une performance avec la danseuse et chorégraphe Linda Hayford au musée de l'Orangerie à Paris, dans le cadre de Danse dans les Nymphéas.
Et le spectacle continue.
Principe actif.
Tout de suite, on retrouve Fantasio.
Oui, alors nous sommes dans les loges de la salle Jacques Brel, à l'occasion du festival Banlieue Bleue. Je me trouve à côté de Fantasio, qui vient de jouer sur scène avec son nouveau trio, qui s'intitule, je crois, Peuple Fiction.
Ouais, c'est ça.
Mais que tu traduis...
Dire. Ouais. Tu dis à peu près bien les choses.
Que tu traduis en fonction du lieu où tu joues, parfois ça prend d'autres noms, je crois.
Ouais, j'essaye de plus prendre trop de noms différents pour arrêter de perdre et de me perdre.
Oui, parce qu'on peut dire que... Alors nous, on se connaît quand même, on le dit pour les auditeurs, on se connaît, ça fait peut-être 20 ans, je ne sais pas.
Ouais, mais j'essayais de te voir comme un journaliste du Nouvel Obs que j'avais jamais vu pour rester un peu impressionné, tu vois. Je veux pas faire des théories fumeuses, mais faire comme si rien n'avait existé, comme si tout était un jour nouveau à chaque instant, c'est à la fois très fatigant, mais nécessaire.
Entre-temps, donc, moi, je t'ai connu sur plein de projets différents. Hein. Je t'ai connu, je crois, d'abord, c'était au Lavoir Moderne Parisien, je crois. Un lieu qui accueillait pas mal de jazz, on va dire, à l'époque.
Ouais, l'Olympique, non ?
Et à l'Olympique aussi, ouais. Ouais. Voilà, puis entre-temps, il s'est passé énormément de choses.
Il y a eu plusieurs changements de gouvernement un peu partout dans le monde.
Je parlais plutôt de tes projets, mais...
Ouais, d'accord. Bah, c'est moi qui essaye de faire en sorte que les gouvernements changent, donc ça reste mes projets.
On peut voir ça comme ça aussi.
Dans ma chambre, j'ai décidé d'un gros... Ça fait 10-15 ans que je prépare un gros virage à l'extrême droite dans tous les pays du monde. Et j'ai bossé dur pour ça. Yuri Kela m'a pas mal aidé. Ça a été des... Tu vois, des coups de fil, des machins. Comment faire pour que le monde vire vraiment extrême droite en 10-15 ans? Et maintenant, on voit, tu vois, les résultats, tu vois, petit à petit, notre boulot, ce qui est assez satisfaisant.
Voilà. J'espère que les auditeurs le prennent pas au premier degré.
Moi non plus, ouais.
Et donc, là, on est dans les loges. Et effectivement, il y a Yuri qui joue du clavier, qui est présente ici. Et puis, il y a Francesco qui est donc à la batterie.
Ouais. Donc avec Francesco, on joue ensemble depuis maintenant bien pratiquement 20 ans, enfin plus de 15 ans. Et on joue en duo avec souvent un troisième invité. Alors, il y a eu Seb Martel, Léo, Julien Boudard, Emery Cavis. Enfin, on était une base de deux avec une sorte d'invité à chaque fois. Et puis là, Yuri, c'est une invitée qui s'est installée dans notre appart. Tu vois ? On lui avait pas dit, mais elle a pris ses aises et puis elle a ornementé vachement bien l'appart. Enfin, on vit dans un Airbnb. Et du coup, on lui a dit, si tu peux rester, parce que niveau déco, c'est génial.
D'accord. Et concrètement, vous l'avez rencontré comment, Yuri ?
Alors, en fait, c'est Antonin Tri avec qui on jouait. Mais bon, pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas forcément les noms. Donc, c'est un jazzman assez jeune.
Saxophoniste,
pianiste, etc. Ouais. Très chouette. Et un jour, il pouvait plus être trop disponible. Et il m'a dit, je connais quelqu'un que j'ai vu hier jouer, mais que je connais pas. Et il me dit, je peux te trouver son numéro, ça t'intéresse? Et j'ai appelé Yuri. Et en l'appelant, j'ai découvert qu'elle vivait à Rennes, à 1 kilomètre de chez moi, ce que je savais pas. Donc on s'est vu, on a parlé, voilà, ça a commencé comme ça.
La dernière fois que je vous ai vu aussi, donc là tous les trois, cette fois c'était à la Maison des Métallos. Donc là c'était en septembre 2023.
Ouais.
Et on peut dire que c'est assez différent de ce qui s'est passé ce soir. J'ai l'impression que ce soir c'était, bon, peut-être parce que vous aviez que 55 minutes, je crois. Mmh. Donc vous avez essayé de.
Un peu plus ordonné.
Mais aussi il y a eu cette liberté, donc la Maison des Métallos où ça. On sentait que c'était en roue libre, quelque part. Il y avait ces textes fleuves qu'on entend souvent sur scène.
Bah, qui viennent quand ça vient, mais qui sont pas adaptés forcément toujours.
Et ça, j'ai l'impression que c'est nécessaire.
À un moment, j'ai cru qu'il fallait que je parle avant de passer à la musique. Enfin, il y a eu un moment, en tout cas, il y a 10-15 ans, où si je parlais pas aux personnes, pour comprendre d'où je me trouvais et que je jouais direct sans moi comprendre ce que je faisais là, c'était problématique, quoi. Mais non, ça l'est moins.
Ouais. Quand je dis texte fleuve, hein, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'il y a beaucoup de mots, enfin, je sais pas.
Qui servent pas tant à s'adresser au public, mais qui servent à moi me raconter un truc. C'est d'une manière assez égoïste, mais les gens venant à un concert s'attendent plus à de la musique que, je sais pas, de la poésie sonore ou quoi. Mais c'est une manière d'essayer de tendre vers une explication de la situation et de moi jouant devant les gens, qui n'est toujours pas un truc naturel que je fais depuis que j'ai 16 ans, mais qui est toujours pas... c'est pas que c'est pas naturel. Enfin, pour moi, voilà, les concerts, c'est des formes sophistiquées. Ce qui est assez naturel, c'est de jouer pour une raison précise, sociale, enterrement, machin, t'as une fonction. Et un concert, tu pourrais dire que la fonction, c'est de jouer pour les gens qui viennent te voir, mais ça n'a pas de raison, rituelle, quoi.
D'accord.
Voilà.
Il faut un contexte.
Donc, la parole, pour moi, ça fait un truc rituel, voilà.
On va parler du concert de ce soir. Donc, déjà, ce trio, ça fait... Là, j'ai l'impression qu'il commence à jouer pas mal. Il a même été, je crois, donc en Amérique du Sud, c'est bien ça?
Ouais, on était en Colombie au mois de novembre, fin novembre, début décembre, tous les trois. Invité par Xavier qui organise le festival Banlieue Bleue et organisé par Santiago, un ami de Xavier qui s'occupe plutôt de musique contemporaine en Colombie, mais qui nous a fait venir. Et l'idée, c'était de rencontrer Las Estrellas et éventuellement d'imaginer un projet autour de la boxe. Mais en fait, le volet boxe, on n'a pas eu le temps.
D'accord. Pourquoi la boxe?
C'était un peu l'idée par rapport aux Jeux Olympiques, tout simplement. Il y avait des enveloppes du Conseil Général ou je sais pas quoi, c'est souvent ça, les institutions, c'est d'organiser des choses autour d'un grand événement qui peut paraître d'ailleurs au passage toxique ou imposé de manière assez violente. Mais du coup, ça fait des rebonds et ça fait que on propose à des gens de faire autour de aux salles, aux événements, autour de Paris, j'imagine. Des enveloppes, des thunes en fait qu'il y a pour justifier des projets entre musique et sport, voilà. Donc ça peut paraître tiré par les cheveux, pour moi c'était très très tiré par les cheveux, et petit à petit ça a eu lieu parce que par exemple cet après-midi on a joué avec des jeunes de l'IME, c'est donc un centre psychiatrique à Bobigny, avec qui j'ai fait deux ateliers, et cet après-midi à 15h on a fait une sorte de petit spectacle devant 15 personnes où on mélangeait boxe et texte, chansons, musique, mais avec des gens d'un milieu psychiatrique avec qui c'est pour moi beaucoup plus simple de travailler qu'avec des jeunes qui n'ont a priori pas de troubles psychiques, quoi.
Donc, William, tu en as parlé ce soir à l'occasion d'un titre, J'embrasse un œuf, c'est ça?
Ouais.
Donc, c'est un institut médical éducatif, c'est ça? Enfin, c'est pour les jeunes, quoi?
Oui, c'est des jeunes qui ont des troubles très, très singuliers, très distincts. On ne distingue pas, on ne dit pas parce qu'il y a des ESAT ou des ESAD, je veux dire, des centres, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé avec des autistes. Et là, il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, ce que je ressens, mon ressenti, je connais pas les termes, mais c'est qu'il n'y a pas de catégorie... Enfin, on se sent pas auprès de telle ou telle catégorie. Il y a des troubles très, très, très distincts les uns des autres. Et même déjà dans l'autisme, les troubles sont incomparables d'une personne à l'autre. Mais bon, ça fait une sorte de grande famille. Le point commun qui m'a semblé juste depuis beaucoup d'années où j'ai bossé avec les autistes, la seule définition qui me semblait viable face à quelque chose qu'il n'y en a pas, c'était que nous, on hiérarchise par exemple les sons. Quand tu me parles là, mon cerveau, il met le son de ta voix au premier plan. Donc c'est toi que j'écoute et je te réponds. Et la musique qu'on entend derrière, c'est au deuxième plan, la voiture qui passe, c'est au troisième plan, etc. On hiérarchise les sons, les odeurs, les pensées, etc. et que eux n'ont pas de domestication de la hiérarchie de ce qui leur arrive dans le cerveau. Donc des choses au troisième plan pour nous peuvent prendre une place gigantesque au premier plan. C'est la seule définition que je... Mais pour revenir à l'émeute ce matin, des gens qui arriveraient pourraient dire mais c'est quoi, ils sont plutôt autistes ou plutôt... Non, en fait il y a tout un tas de troubles. Leur point commun, c'est qu'ils peuvent pas, ce serait trop complexe pour eux d'être dans des milieux scolaires normaux, même si de plus en plus il y a vachement d'aération, enfin de jeunes qui continuent des cursus scolaires avec les autres accompagnés. Ça se fait de plus en plus, ouais.
Les troubles psychiques, j'ai l'impression que c'est un thème qui est assez récurrent dans ce que tu fais, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est tout sauf un thème, excuse-moi, Philippe. C'est-à-dire que c'est la vie, quoi. Oui. Pour moi, la vie, c'est... Je dirais pas que c'est les troubles psychiques, mais c'est l'univers mental des gens invisibles, dont on parle assez peu, même les gens... L'univers mental des gens de pouvoir, par exemple, on n'en parle pas. Et je pense qu'on baigne tous là-dedans, c'est une mère matrice, quoi. Donc le monde mental, je dis pas qu'en Occident on est plus mental qu'en... Ça c'est des gros clichés. Et qu'on serait spontané, enfin comme si spontané c'était l'inverse de monde mental. Mental ça veut pas dire cérébral, je dis qu'en tout cas ce qui nous lie tous dans des moments historiques où on est tous très divisés, c'est le jus psychique dans lequel on baigne tous, c'est-à-dire une marée de pensées et de sensations indicibles. Et dans cette marée de choses indicibles, il y a des personnes pour qui la différence entre ce qu'ils sont, ce qu'ils montrent socialement et ce qu'ils vivent intérieurement peut devenir insupportable ou poser problème. Et dans ce cas-là, peuvent apparaître des troubles psychiques. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai embrassé un œuf. Ce matin, j'ai embrassé un œuf. Faut sentir en moi le souvenir des deux vieux dieux. Faut sentir en moi des vastes souvenirs des deux vieux dieux. Ce matin j'ai embrassé mon œuf. Ce matin j'ai embrassé mon œuf. Faut sentir en moi le souvenir des deux vieux dieux. Faut sentir en moi le souvenir des deux vieux dieux. Car je t'avais enlevé ses lentilles sous la douce pendant un moment de trouble psychiatrique aigu. Il s'était dit qu'enlever lentilles sous la douce allait le guérir d'une seconde. Et combien de pensées magiques telles que celles-là nous envahissent.
Dans les loges de la salle Jacques Brel à l'occasion du festival Banlieue Bleue. On écoute en fond d'ailleurs le groupe colombien, je crois, Estrellas del Caribe.
Ouais, les Étoiles des Caraïbes. Donc c'est un groupe qui a été créé en 76 à San Basilio del Palenque, qui est la première ville proclamée ville des esclaves libres, c'est des esclaves noirs venant d'Afrique, qui 17e ou 10e, je vais dire une bêtise, mais ça se vérifie rapidement comme tout. Je sais plus, c'est mi-17e ou mi-18e, en tout cas ils sont libérés de leur maître. Et ils ont créé un village d'esclaves libres qui est le premier en Amérique latine. Et après, il y en a eu peut-être, je ne sais pas sous quelle forme, mais celui-là a tenu en tout cas très longtemps, comme une république, petite république autonome un peu. Et donc, eux, ils sont issus de ce village-là, San Basilio de Palenque. Donc, la musica, c'est la musica palanquera qui vient de là. Et qui est un mélange de champeta, de high life jamaïcaine. En fait, ils sont influencés par tout un tas de musiques. Ils sont créés en 76. Et là, le chanteur Léonel, c'est le seul qui reste, je crois, depuis 76. Il y en a deux autres qui sont là aussi depuis longtemps. Et les autres jeunes, ils tournent. C'est-à-dire, ils accueillent en leur sein d'autres générations plus jeunes qui les avaient vus jouer enfants, etc., et qui ont intégré le groupe. Et ça s'est toujours passé comme ça, c'est-à-dire que les gens passent dans le groupe, apprennent des choses et repartent. Donc c'est à la fois un laboratoire, une musique de guérison, et ils emploient ce terme, curative, de nettoiement, quoi. Et voilà. Donc on les a rencontrés à Bogota, on ne les connaissait pas. Et on a joué à l'Université Nationale de Bogota. Et là, ils viennent d'arriver ce matin. Ils ont joué dans un EHPAD à 10h30. Et avec le jet lag et tout. Et là, ils enchaînent ce soir.
Et donc là, nous sommes avec Fantasio, j'ai oublié de préciser. Donc on est toujours avec Fantasio, contrebassiste, chanteur, ukulélé aussi, j'ai entendu ce soir.
Quattro.
Ouais. C'est quoi la différence?
C'est plus grave. Ouais. Et ça permet aux gens snobs de dire je joue pas du ukulélé. Mais c'est un instrument argentin, vénézuélien, un peu colombien, à quatre cordes. Voilà.
Quand on lit le programme de ce soir, hein, qui est, enfin, sur le fascicule du Banlieue Bleue, on voit que quand tu étais jeune, tu étais donc, je crois, en Amérique du Sud, c'est ça?
Ouais, un peu en Argentine et un peu plus en Colombie. Ouais.
Quel souvenir tu as de cette période?
Et bah, c'était très violent, très sombre, très violent en Argentine. Un peu moins violent en apparence en Colombie et finalement aussi violent. Mais très puissant, quoi. Très puissant. J'ai du mal à... Enfin, c'était un continent qui... Enfin, moi, j'étais préadolescent. C'était très, très bouleversant, quoi.
C'est-à-dire
bah, j'avais une famille en Argentine pas terrible, pas très cool. Donc ça faisait un truc bouleversant. Et puis parce que c'était là, ma mère venait de là. Elle est morte en 82, j'avais 10 ans. Donc retourner seul là-bas sans elle, parce qu'on m'envoyait seul, mon père m'envoyait seul, c'était tout un tas de fantasmes, quoi, ou d'envoûtements, désenvoûtements, mais c'était compliqué, quoi.
Et là, vous y étiez retourné depuis ou pas, en fait?
Et si, si, moi j'y étais encore aussi en Argentine plusieurs fois. Depuis l'enfance.
Et ça faisait quoi finalement de revenir un petit peu? Enfin, je sais pas si tu étais au même endroit, mais qu'est-ce que ça fait comme impression?
Là, d'y retourner là. Ouais. Ben, la Colombie, c'est particulier parce que c'est très. Comment dire, vivace et pointu dans toutes les formes de lutte mondiale, universelle, sud-américaine. Et la Colombie a une histoire hyper, hyper singulière, quoi. Enfin, bon, chaque pays, mais... Donc, c'est un pays en paix, mais qui a beaucoup de morts, comme si c'était un pays en guerre, toujours. Beaucoup de gens qui ont eu des expériences proches ou lointaines avec beaucoup de formes de violence. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il y a un besoin de la jeunesse, en tout cas, enfin, un ras-le-bol, en fait. Que je me souviens qu'à Berlin, après la chute du mur, j'y allais en 95... Quand je rencontrais des Allemands de l'Est, ils voulaient plus qu'on leur parle du mur, quoi. Ça les saoulait qu'on raconte des trucs. Les gens arrivaient et disaient alors, c'était comment? Enfin, il y a eu un ras-le-bol de ça. Et en Colombie, j'ai un peu cette impression-là, mais avec beaucoup de douceur, de gens qui diraient ben, nous renvoyez pas notre image là qui traîne dans le monde entier, guérilla, narcotrafic, paramilitaire, les trois, le triangle infernal, et aussi les terratenientes, qui est la base de tous les problèmes, les propriétaires terriens. Parlez-nous d'autre chose un peu. Et du coup, il y a eu vraiment une explosion, je pense, artistique très particulière ces dernières années.
Alors, par exemple, vous qui avez joué avec le groupe donc, Peuple Fiction, comment ça a été accueilli ce projet en Colombie?
Franchement, je sais pas. On est resté trop peu de temps. On a fait deux concerts. Et je sais pas. On n'était pas. Moi, j'étais trop troublé par ce retour-là pour avoir du recul et. Et j'avais d'autres problèmes à régler que la musique qui ont pris trop de place dans ma tête et donc j'étais pas très concentré.
Pour revenir sur le concert de ce soir, donc ici pour le Festival Banlieue Bleue, donc en première partie du groupe Estrellas del Caribe qu'on peut entendre derrière, vous avez fait une sorte de dédicace à des penseurs sur le titre Un cadavre mou.
Ouais. Bah, dédicace aux polémistes, en fait, quoi, ce nouveau métier étrange qui est...
Qui envahit les médias.
Oui, et qui est, on prend quelqu'un de 60 ans qui peut parler d'à peu près tout, la moquette, le plexiglas, la résistance des pare-brises, la politique, la géopolitique, enfin à peu près tout, et qui surtout ont un mot final pour définir les choses, voilà, et qui font beaucoup de mal, ouais, je crois. Qui font tout sauf questionner, c'est-à-dire qu'ils ne font que affirmer des choses. Et plus le monde est complexe, plus je pense que ça pose problème d'affirmer des choses définitives. Quoi. Donc, ouais.
Quel rapport tu as avec les médias ou peut-être comment tu t'informes ou, puisqu'on parle un petit peu de
ouais,
ça
hein, j'ai un problème obsessionnel comme tout le monde de regarder en boucle les médias qui semblent les moins glauques. Et puis après, je suis comme un...
Eso, pero que es ese, David? Porque le dije a Franklin que si filmamos algo, sería... Cucha... Y no es ese. No. Después...
Creo que sigue después de esta.
Después de esta, bueno.
Et je sais plus ce qu'on disait. Ouais, ben, on a tous un envahissement des médias. Et puis, on croise des gens qui disent « Non, non, moi, je lis plus rien, je regarde plus rien. » C'est pas de la lâcheté, c'est qu'en fait c'est un tel déversoir. C'est pas les médias, c'est tout en fait, c'est les réseaux, bon, on connaît la chanson. Donc est-ce qu'on se laisse rentrer des choses dans le ventre? Est-ce qu'on fait le tri? Est-ce qu'on oublie tout ça pour se concentrer sur des choses personnelles, locales? De toute façon, quand trop de choses rentrent dans le corps, ça peut créer des sortes d'apathie ou des sensations d'impuissance et d'écrasement. Donc c'est plus être informé comme dans les années 70, 80, 90. Là, c'est plus de l'information, en fait.
C'est devenu quoi, là?
Je sais pas. C'est de l'envoûtement, quoi, je pense. Parce qu'après, il y a toutes les théories qu'on peut lire sur le monde. Enfin, chacun y va de son enquête, sa théorie. Enfin, ça donne envie de faire ça, de aller chercher la racine du mal. Mais en tout cas, je pense pas qu'on la trouve via quelques médias que ce soit, sinon en soi-même, quoi, chez soi-même.
Dans une forêt d'algorithmes, je viens juste de tomber ce soir. Tous ces principes.
De polémiste, donc c'est dédié à Michel Onfray, à Éric Zemmour et aussi un petit peu à Finkielkraut.
Est-ce qu'on peut parler de ce projet, puisque là c'est donc le trio Peuple Fiction. Je crois la dernière fois qu'on s'est parlé, tu parlais d'un projet disque de ça avec Sarah Murcia. Ouais. Où s'en est ce projet?
Ouais, elle nous a aidé à construire, enfin disons qu'à passer des morceaux qui ont été joués sur scène très longtemps. Des années, l'idée c'était de leur faire une robe fraîche, donc elle nous a beaucoup aidé pour ça. Et donc on a commencé le disque, il devait se faire il y a 8 ans, après il y a 7 ans, il y a 6 ans, enfin bon, bref, il y a eu 3-4 tentatives. Et là c'est la dernière, et donc ça se termine dans 20 jours, j'espère.
Ah oui, on est vraiment en plein dedans.
Ouais. Ouais.
Donc là, un disque va sortir probablement en 2024.
À l'automne, ouais, avant le Noël. Ouais, ouais.
Ça a mis du temps, et pourquoi ça a mis du temps? Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de disques au début.
Parce que c'est compliqué pour moi de faire des disques. Je sais pas comment dire autrement.
D'accord.
Peut-être ça le sera moins. Ou je fais un disque par jour, ce que j'aurais bien aimé faire. Ou un par mois, je sais pas. Le format chanson pose problème pour mille raisons, parce que je trouve ça très, à la fois très naturel, comme une ritournelle sifflée sous la douche, et à la fois très sophistiqué. Donc il fallait trouver un chemin, frayer un chemin entre les deux.
Donc Fantasio vient de revenir de scène,
ouais.
où le groupe termine le concert en fait.
Ouais, et je leur avais promis que je filmais un de leurs morceaux, donc j'y suis allé.
Ouais, on peut peut-être revenir un peu sur vos projets qui vont venir, et puis on va terminer l'interview de cette manière. Il y a notamment ce film qui s'intitule « Je reviens dans 5 minutes mm-hmm. ». Que j'ai eu la possibilité de voir, c'était à la Galerie Huss il y a quelques temps. Et là, j'ai vu qu'il tourne pas mal, il va passer à Bruxelles, je crois, au Bouffe du Nord aussi.
À Bruxelles, il passe une fois par semaine au Cinéma Nova à Bruxelles, ouais.
Bah, en fait, on peut déjà parler de ce film, de quoi il parle, peut-être?
Il parle de ma relation avec mon père, et en l'occurrence, vu que j'ai commencé à le filmer très tard, le chemin vers la mort, enfin son chemin lui vers la mort, et notre relation... Voilà, en l'accompagnant vers la mort.
C'était pensé au départ, ou comment s'est fait ce film en fait?
Non, c'était le filmer, et puis le filmer quoi, avec les années qui passent, 2 ans, 3 ans. Et puis le Covid a tout interrompu, on a fini le film avant le Covid. Donc il s'est retrouvé dans un EHPAD au moment du Covid, isolé, il a commencé à avoir des phases de démence. Après il est mort, un an après.
Il a pu voir le film donc?
Ouais, des bribes, non, pas vraiment, non. Ouais, il a vu des petits extraits parce qu'on l'avait pas monté, même avant, un an avant qu'il meure, on l'avait pas vraiment monté, mais il a vu des petits, mais il s'en foutait en fait.
Et en fait, l'objectif c'était donc de filmer votre père, mais aussi d'essayer de rencontrer, de parler un petit peu de l'histoire, j'ai l'impression.
Bah, d'évoquer, ouais, le prétexte c'était d'évoquer ces années de résistance, pas forcément. Moi, j'ai voulu l'emmener aller voir un ami à lui qui résistait avec lui à 13 ans à Bruxelles. Il n'a jamais voulu venir, donc j'y suis allé sans lui et j'ai compris pourquoi il ne voulait pas y aller.
Bon, là, on va peut-être vous laisser parce qu'il y a les musiciens qui arrivent. Mais d'autres projets à venir, notamment Constantine, le projet Tos et Caldi qui sera joué en Algérie. Ça, c'est assez chouette.
Oui, pareil, mais ça, c'est pas sûr. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est des bouquins. Ouais, des bouquins qui devraient sortir un ou deux d'ici 6 mois.
Des bouquins, donc
Un livre de 10 ans de rêve, 1000 pages ou 1500 pages de rêve, écrit à 5 heures du matin. Et un autre livre de l'enfance, sur l'enfance.
C'est chouette. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler.
Okay. Avec plaisir. Merci, Philippe.
Merci beaucoup, Fantasio.
Et le spectacle continue.
Principe actif.
Il s'agissait d'un entretien avec l'artiste Fantasio dans le cadre du festival Banlieue Bleue, où il s'est produit avec son groupe Peuple Fiction. On continue à présent avec deux autres artistes pour une performance musicale et dansée, à savoir Labiala Nosfell et Linda Efford.
Alors là, nous sommes au bord de Seine à Paris, pas très loin du musée de l'Orangerie, au Jardin des Tuileries, où s'est déroulé dans le cycle de danse, je crois que ça s'appelle « Danse dans les Nymphéas ». Et là, je suis avec deux artistes qui se sont produits ce soir, Linda Efford et Nosfell. Bonsoir, Linda.
Bonsoir.
Bonsoir, Nosfell.
Bonsoir, Philippe.
Alors, on va déjà peut-être vous présenter. Donc, Linda Efford, chorégraphe, et Nosfell, artiste, musicien, conteur, bon, pas mal de choses. Peut-être on peut commencer par ce qui s'est produit ce soir. Donc déjà jouer dans ce lieu assez étonnant, les Nymphéas de Claude Monet. Comment appréhender ce lieu, l'espace, le public, au niveau des mouvements, de la danse? On va commencer par Linda.
À la base, j'ai un peu imaginé une circularité possible pendant la performance, puisque les 13 en ovale, et que sur les photos que j'avais pu voir, les bancs, les assises étaient plutôt au centre. Donc je pensais qu'il y avait plutôt un truc... qui pouvait évoluer tout autour d'un public. Nosfell a proposé qu'on dispose les coussins qui étaient au sol comme des petits îlots ou comme des petites barques, comme un archipel ouais, de personnes, pour qu'on puisse aussi naviguer à travers eux, quoi.
Donc on imagine, parce que là c'est la radio, on imagine donc tout autour il y a les œuvres de Claude Monet. Est-ce qu'on peut parler de votre rencontre, Nosfell?
Oui, Linda, on s'est rencontrés je crois en 2018. Linda Efford est co-directrice du Centre chorégraphique national de Bretagne, où je suis associée avec Enes Dos et Sofiane Jouini, qui sont deux autres artistes associés. Et avec Linda, il y a eu une rencontre qui a été propulsée par Abouzid.
Abouzid Aïtatman, autre membre du collectif chorégraphe, du collectif R.
Il y a dans l'histoire de ce collectif une écriture chorégraphique qui passe aussi par l'oralité. Et ce sont des artistes qui ont tout de suite œuvré, quand ils sont arrivés à la direction de Rennes, à des propositions pour le public dans des espaces mobilier extérieur, enfin mobilier urbain, mais dans une démarche de rêverie très... avec beaucoup de poésie, une manière de voir la danse dans la rue, mais en vraiment sortant, en décloisonnant complètement les genres, en s'extrayant de beaucoup de clichés qu'on peut avoir sur ces musiques, sur ces danses dites hip-hop, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre tout ça vraiment sous la même cloche. C'est beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ont développé des techniques, des langages particuliers. Et moi, du coup, personnellement, par rapport à mon parcours artistique, je me reconnais en eux dans cette envie, cette recherche, ce désir de tisser un peu des nouveaux langages. Mais c'est vrai que moi, par exemple, la musique dite hip-hop, c'est quelque chose qui m'influence énormément, mais qui ne se retrouve pas nécessairement instantanément dans mon travail. Et on a voulu se rencontrer comme ça avec Linda. Linda m'a gentiment invité à travailler avec elle sur une création qui s'appelle Recovering. Et nous voilà au Nymphéa, à l'Orangerie, sur une invitation de Linda. Je suis venu.
Oh!
l'imaginaire de Linda Effort, bah, je parle à la troisième personne. Je suis trop fan. Elle propose des personnages qui peuvent être doués d'une grâce comme ça, céleste, et puis d'un seul coup d'assumer une espèce de monstruosité, comme si c'était une manière d'assumer aussi ce qui était humain, ce qui était vraiment intrinsèque à l'être humain, et de vous montrer ce qui est au plus profond de nous, cette organicité là, la sublimer quelque part.
Alors justement, Linda, on pourrait peut-être parler de ton travail, ta danse. Ta spécificité, c'est que tu es ambassadrice du popping. Peut-être qu'on peut expliquer ce que ça signifie.
Alors moi, je dis jamais que je suis ambassadrice du popping.
Ah bon. C'est ce qu'on voit. Oui,
non, bien sûr, mais je suis danseuse. D'accord. Et oui, ma danse, mon esthétique de base, c'est le popping. Donc c'est une danse funk style qui est née dans les années 70 à Los Angeles, qui est une danse qui est plutôt basée sur les contractions musculaires, les impacts, le relâcher. Et toute cette danse-là, elle est fondamentale pour moi, parce que finalement, si je fais un super méga raccourci, c'est faire le robot ou des vagues. J'abuse, parce qu'il y a vraiment énormément de spécificités de danseurs très spécialisés dans chaque on va dire famille qui contribue à cette plus grosse famille qu'on appelle le popping. Cette technique, pour moi, elle est fondamentale, parce que pour un spectateur, pour n'importe qui voit quelqu'un pratiquer cette danse à un endroit qui est assez maîtrisé, il y a ce rapport visuel. On peut créer du fictionnel, on peut ralentir le temps avec le slow motion, on peut donner l'impression d'être un robot, on peut donner l'impression d'être un pantin, on peut donner l'impression d'être plein de choses. Mais pour que ce soit visuellement, que ça renvoie ce qu'on imagine ou ce qu'on ressent, il faut pouvoir sentir. En fait, c'est vraiment une danse qui est basée sur le contrôle du corps. Donc sur vraiment une conscience pleine des appuis, de quand on relâche, de quand on gaine, de quand on impacte, de quelle fréquence on impacte, est-ce qu'on retient une contraction musculaire. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est une pratique de longue haleine. Et à l'intérieur de ça, moi j'ai aussi, je fais aussi d'autres styles de danse dit hip-hop, donc... dit hip-hop parce que très grosse famille, mais la house dance, c'est une danse qui a sa culture aussi. Enfin, c'est une culture à part entière qui est née dans des clubs, qui n'a rien à voir avec le popping a priori, new style ou de la hype. Enfin, c'est des danses que j'ai vraiment vécues, travaillées à mon endroit. Quand je vois quelque chose qui me plaît, j'ai envie d'essayer de le faire. Donc j'ai toujours été comme ça à tous les niveaux presque. Finalement, avec le temps, je me suis retrouvée à avoir quand même pas mal de langages différents dans le corps, des changements d'énergie qui parfois s'opposent à travers des musiques différentes, et aussi moi-même dans ma sensibilité musicale, d'ouvrir aussi et de danser sur des choses qu'on ne retrouve pas dans des battles, par exemple. Et ça a aussi changé ma danse. Donc toutes ces expériences-là, elles ont quand même amené à des choses qui vivent en même temps dans le même corps. Et j'ai voulu aussi prendre le temps de vraiment décortiquer ma pratique et mes réflexes en danse pour voir finalement ce qui était essentiel. Parce que des réflexes, c'est quand même des choses qui reviennent tout le temps. C'est des choses qui nous réconfortent corporellement. C'est des choses qu'on aime bien vivre. C'est des choses auxquelles on ne réfléchit plus. Et finalement, je me suis vraiment posé la question de... OK, ces réflexes, finalement, si on les étire ou si on leur donne la place de pas juste être furtif dans le corps, qu'est-ce qui peut exister ? Et ça, cette réflexion-là... Elle a été faite par rapport à mon envie de créer un solo, parce que justement, j'étais dans plusieurs projets et j'avais au bout d'un moment envie de voir où est-ce que je pouvais pousser des choses qui pouvaient naître dans d'autres pièces, dans le processus en tout cas, dans le processus de se découvrir en tant qu'interprète. Il y a des choses qui viennent bouger, mais tout n'est pas forcément intéressant pour la vision d'un chorégraphe pour lequel on travaille. Donc j'ai eu envie de faire un solo, et mon approche et mon process par rapport à ce solo qui s'appelle Shapeshifting, donc en métamorphose on va dire, c'était complètement de décortiquer ma pratique et ce que je faisais déjà et ce que mon corps savait déjà faire. Je suis passée par le solo pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Pour être consciente de ce que je faisais, j'avais besoin de... Enfin, pour guider d'autres personnes, il fallait que je conscientise vraiment ce que je faisais, quoi.
Et quand on parle de métamorphose, c'est parce qu'il y a un changement dans la manière de danser ou la manière de s'entourer Parce que là, on parle de process, et justement, ça s'intitule processing, hein, ce que vous avez fait ce soir, je crois.
Alors, moi, je suis quelqu'un du process, c'est-à-dire que j'aime beaucoup toutes les phases où on ne sait pas encore, où on teste des trucs, où il y a un début d'idée que peut-être on ne va jamais retrouver, ou un truc un peu furtif, finalement, qui devient... le plus gros du travail, enfin de ce qu'on présente à la fin. Métamorphose parce que dans cette recherche de ce que je fais déjà, j'ai donné la place à beaucoup de choses en étirant absolument tout, en ralentissant plein de choses, et ça donnait forme à des postures. Ces postures-là, par contre, j'étais aussi très loin dans les sensations. Je suis vraiment allée chercher la sensation. Je suis passée par la sensation et ça a donné, ça fait émerger des postures. Et ces postures-là, j'ai travaillé autour d'elles et j'ai continué à les complexifier en leur inventant des présences, des manières d'être présent, des manières de regarder, d'utiliser l'espace, de marcher, enfin, plein de choses comme ça, et de trouver aussi le moyen de naviguer entre chaque, sans donner l'impression de passer d'un tableau à un autre, mais plutôt en essayant de les faire fondre les unes dans les autres et accepter que malgré qu'à un même moment il y en ait trois en même temps, chaque partie de ces trois créatures est complètement leur place.
Et par exemple, Sinusoïdal, ça pourrait se traduire lorsque tu chantes dans les aigus, que tu chantes dans les graves. Dans tes spectacles précédents, je sais que tu crées plusieurs personnages. Comment ça se matérialise sur de la danse
Oui, bah, alors après, moi je suis pas danseur, mais par contre il y a un truc où effectivement la voix j'ai le sentiment que la voix enclenche quelque chose dans le corps, et que j'embrasse, et qui me fait beaucoup réfléchir, et que j'ai envie d'explorer, quoi. Dans des tensions, des fragilités, des rugosités. C'est ce qui m'intéresse aussi vocalement. Et je crois qu'on se retrouve là-dessus, Linda dans le corps, et moi oui, dans la voix.
Parce que Nocelle dit souvent qu'il n'est pas danseur. Nous, on se pose des fois la question de c'est quoi, c'est quel moment qu'on est danseur ou pas danseur. Bon. En tout cas, c'est vrai qu'il a une nécessité dans le corps d'être aussi, son corps est aussi écho à sa voix, parce que je pense qu'il est tellement virtuose avec sa voix, tellement il peut l'emmener n'importe où, que le corps, je pense, son corps ne peut pas résister en fait à être une conséquence aussi, à être je sais pas comment expliquer, mais en tout cas
c'est un prolongement,
ouais, c'est vraiment un prolongement de sa voix. Et en même temps, quand il se retrouve dans le corps, il peut parfois avoir un peu peur justement de pas être juste, alors que moi je trouve que vu que c'est tellement une nécessité, c'est l'endroit le plus juste. Et là, j'avais plus envie d'être écho à ce qu'il proposait avec sa voix, et du coup à sa nécessité de aussi l'étendre à ben, moi je chante pas, et du coup je vais peut-être aller plus profondément dans mon corps pour être la réponse ou la suite de ce qu'il propose, voilà, et d'aller chercher la même intensité dans le corps.
C'est vrai qu'il y a vous êtes dans la partie muette, mais il se passe plein de choses évidemment au niveau de la danse, et visuel, c'est incroyable. Et puis Nosfeld, donc c'est à la fois visuel et sonore, puisque effectivement, et il y a même du son électronique, hein. il y a un dispositif assez intéressant, puisque le son passait de gauche à droite à un moment donné, c'était circulaire, on va dire. Et puis donc il y avait plusieurs étapes, hein. J'ai l'impression qu'il y avait d'abord une partie un peu suspendue, je dirais, au départ. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, quelque chose peut-être un petit peu plus rythmique, voilà. Et puis vous alliez aussi dans le public, ça c'est intéressant. Nosfeld.
Linda voulait quelque chose de très presque aquatique, et le synthétiseur modulaire, c'est intéressant pour ça. Après, c'est un dispositif assez simple avec un système d'oscillation et de filtre assez basique, et puis la voix qui rentre aussi dans le dispositif et qui est mise en boucle avec un système qui met en boucle, mais à la manière d'une bande magnétique dont on déplacerait la tête de lecture. Ce qui était compliqué pour moi, c'était de me dire là, je suis dans un état de corps, et puis en même temps je dois revenir aux machines, cette fluidité là je serais curieux de voir ce que ça donne, si ça donnait, si c'était fluide ou pas. En tout cas, moi je suis passé un très bon moment. Thank you.
vous avez travaillé ensemble. Donc, Linda, toi, c'est plutôt donc toi qui dirige, puisque tu es chorégraphe. Mm-hmm. Comment vous avez pu travailler ensemble? Comment ça s'est passé le travail? Vous êtes parti de la musique, vous êtes parti de mouvement, vous aviez une direction, une trajectoire?
Moi, je suis partie d'une thématique et je me suis dit que Nocel, c'était la meilleure personne pour comprendre comment ses corps allaient traverser différents états et aussi qu'il avait assez d'outils pour naviguer entre la voix, la composition, tout ça. En tout cas, moi, ça m'a appris aussi à travailler avec un compositeur qui travaille avec des instruments, qui est différent de travailler avec un beatmaker qui va peut-être avoir juste un synthétiseur et pas forcément d'instruments et de la voix et voilà, et qu'on est beaucoup aussi sur des principes de loop, là où, où Nocel, il va créer des grilles, imaginer aussi des paroles peut-être, et il a aussi tout un langage qu'il a imaginé. Donc enfin, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte sur une longue pièce ou sur quelque chose de plus de plus long qu'une performance assez spontanée, quoi.
Peut-être on peut terminer sur les projets de chacun rapidement. Alors Nocel, on va parler de l'actualité peut-être. Donc il y a cette résidence au Havre où il se passe pas mal de choses. Donc il y a eu les spectacles dansés, chantés. Donc je crois qu'il y a eu le corps des songes. Mmh. Et puis là, il y a cette création qui va bientôt avoir lieu, qui s'appelle
Les Frères de lait. Il y a une nouvelle création. On va présenter les deux, enfin la première au Havre, 5 et 6 novembre. Ouais. C'est une pièce. On est trois à danser, à chanter. C'est une série de pièces où je parle beaucoup de l'intime, je parle beaucoup de questions que je me pose. À l'endroit de la famille, de ce dont on hérite culturellement, psychologiquement, lorsqu'on a, comme moi, une partie de ses racines qui ont été un peu cautérisées par l'exil, par tout un tas de choses. Donc ça brasse un petit peu beaucoup de questions comme ça. Et ça va être une espèce de traversée presque rituelle de ces trois personnes qui vont un peu se modifier, qui vont partir d'un état et puis qui vont à un moment donné accepter ses démons intérieurs, les apprendre à les dompter.
Donc j'imagine que ça va être un spectacle joué dans peut-être des théâtres, non?
Oui, c'est pour des théâtres, ouais.
Parce que moi, je vous ai connu donc sur scène, c'était un festival d'ailleurs, c'était pas très loin d'ici, la FNAC Festival. Et donc là, c'était plutôt concert, rock, voilà. C'est une forme sur laquelle vous allez peut-être revenir?
Oui, non, c'est prévu. C'est prévu. C'est long à mettre en place, mais là on travaille avec le label, on va faire des ressorties, des remastering de disques, et puis aussi sortir des raretés. L'envie, c'est de jalonner un petit peu le calendrier de ressorties ou de sorties de raretés pour mener à un nouvel album. Ouais.
Je ferai des concerts, ouais.
Parallèlement, il y a aussi des projets avec des musiciens de jazz. J'ai vu Jean-Brice Godet, notamment, Septembre Ardent.
C'est une espèce de fiction musicale, chantée en arabe et en français.
Il y a deux voix, il y a vous et une chanteuse, c'est ça?
Et Donia Beriri, oui, qui compose la majeure partie des chansons, d'ailleurs. Et on est tous les deux d'origine maghrébine, on travaille là-dessus, on écrit là-dessus, sur nos pères, sur l'exil, encore une fois, de ce que font les exilés, de leur propre vie, de leur propre biographie, de comment ils se réinventent aussi. Donc là, c'est deux personnages qui se retrouvent un peu dans le désert, et puis qui ont une conversation un peu mystérieuse, entrecoupée de chansons, de temps composé très, très instrumental. Il y a des chouettes parties clarinette, violoncelle, je suis assez fan.
Et puis là, j'ai vu, pour terminer, tout récemment, donc il y a un vinyle ou un disque qui est sorti. Je crois que c'est un projet avec des patients d'un hôpital. Un zèbre bleu aux yeux de mouche, c'est ça?
Un zèbre bleu aux yeux de mouche. Mais moi, je suis invité, hein. Oui. Je suis invité, j'en ai fait un peu la promotion, mais je suis invité. Oui, c'est un beau vinyle qui est sorti aux Presses du Réel. C'est le collectif Das Das, des arsonnés, des arsonnants, qui travaille beaucoup avec l'association Pieds Nus, qui se trouve dans le fort du Havre, Arnaud Lemindu. Et ils m'ont invité et je suis sur deux morceaux. Ouais. Sur le disque, on a fait une création concert. Et je suis invité aussi sur deux titres.
Merci beaucoup, Nocel. Linda, juste un site pour vous suivre ou
Le site du CCNRB, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, nous avons un gros événement au mois de juin qui dure une semaine. Donc c'est un temps fort dédié aux pratiques underground. Il y aura un grand battle des écoles qui sera en partenariat avec la patinoire de Rennes, le Bliz, vidé de sa glace du coup, et l'espace sera pris par les écoles avec qui il y a un projet de territoire depuis un moment. Et puis il y aura aussi des premiers projets qui seront proposés et montrés pendant cette semaine. Donc on va retrouver Mounia Nassangar sur sa création Stuck autour du walking, et qui a un univers bien particulier. Il y aura aussi Endo Ange qui propose une création qui s'appelle Random Believers. Il y a d'autres projets à suivre et à découvrir sur cette semaine-là, plus des performances aussi dans l'espace de l'Hôtel Pasteur à Rennes, d'autres moments de convivialité pendant cette semaine. Donc ça, c'est vraiment notre temps fort de la saison.
Merci beaucoup Linda Efford et merci Noswell. Merci beaucoup et bonne continuation dans vos projets.
Merci.
Et le spectacle continue, une émission réalisée par Philippe.
Et le spectacle continue.
Principe actif.
Fin du spectacle. Plus personne, ni dans les coulisses, ni sur la scène, sauf toi.